Bonsoir, bienvenue dans un monde nouveau, le magazine qui fait vibrer notre époque. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et si la célèbre formule du chimiste français Antoine de Lavoisier, guillotiné en 1793, était la solution à la crise écologique planétaire? Notre premier invité ce soir en est persuadé. Face à la raréfaction inéluctable des ressources, nous n'aurons d'autre choix que de bouleverser nos façons de vivre, de produire et de travailler. Bonne nouvelle, selon Navi Raju, universitaire franco-américain né en Inde, on pourrait faire mieux avec moins et gagner au passage en qualité de vie. C'est le concept de l'innovation frugale.
Quand vous grandissez comme moi dans un pays émergent comme l'Inde, vous apprenez instinctivement à tirer le maximum de ressources limitées et à trouver des façons ingénieuses de réutiliser ce dont vous disposez déjà.
Elle fait partie de la génération Y, ces trentenaires qui porteraient en eux, d'après Navi Raju, l'avènement d'une nouvelle société, plus collaborative et horizontale. Elle nous dira ce qu'elle en pense, elle qui compose, enregistre et produit toutes ses chansons dans sa chambre. Elle s'appelle November Ultra et elle est l'une des révélations musicales de l'année. C'est doux, c'est tendre, soft and tender, extrait du premier EP de November Ultra qui sera en live avec nous dans ce studio tout à l'heure.
France Inter. Sonia Khironi. Un monde nouveau.
Plus de création, moins de consommation, de la douceur et de l'entraide. Ce soir, dans un monde nouveau, on laisse entrer la lumière.
Je suis jamais à l'aise dans les cocktails, la foule des villes à gravité. La musique m'emmène loin du bordel, le feu de Johnny Hallyday. Rien ne serait pareil sans toi, pourquoi t'as peur que je t'oublie? Je pourrais croiser des centaines d'entre elles, les yeux bandés, je t'en trouverai quand même. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut t'arriver, tout peut t'arriver. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Juste au cas où, si t'étais seul, t'aurais dû m'appeler. Tout peut t'arriver, les rien, les graves. Tout peut t'arriver. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable serait comblé. Sentiment étrange, c'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable serait comblé. Sentiment étrange, c'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut arriver, tout peut arriver. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut arriver.
TPA, tout peut arriver, titre de Roméo Elvis tiré du dernier album éponyme du rappeur belge sorti en mai dernier. Rien n'est grave, tout peut arriver et tout se transforme, pourrait ajouter notre premier invité ce soir. Né en Inde, Navi Raju a étudié à l'école centrale de Paris avant de s'envoler pour les États-Unis à la prestigieuse université de Yale. Aujourd'hui consultant en innovation et en leadership, théoricien de l'innovation Frugal, comment faire mieux avec moins, auteur de plusieurs best-sellers, ce franco-américain propose dans son dernier ouvrage de réinventer la consommation, le travail et nos modes de vie pour une société consciente. Bonjour Navi Raju.
Bonjour Sonia.
Je dis bonjour parce que vous êtes avec nous depuis la côte est des États-Unis et qu'à New York, il est un petit peu plus de midi. Navi Raju, ce nouveau monde qu'on tente d'explorer chaque soir dans cette émission sur France Inter, où et quand le faites-vous débuter et comment le définissez-vous ?
Oui, ce monde demain, finalement, c'est un monde qui va connaître une rareté de ressources. Donc, comme on le sait très bien, on ne peut pas avoir une croissance infinie sur une planète finie. D'où l'importance d'apprendre à faire mieux avec moins. Et donc, le concept d'innovation frugale que j'essaie de promouvoir depuis maintenant une douzaine d'années consiste effectivement à créer une civilisation frugale où on peut à la fois consommer mieux et vivre mieux avec moins de ressources.
C'est important parce que vous expliquez que économiser les ressources et donc vivre avec moins ne permettrait pas seulement de les économiser, ces ressources, mais ça pourrait, de surcroît, d'après vous, stimuler l'innovation et la qualité de vie.
En effet, parce qu'effectivement, on dit toujours que la nécessité est la mère de l'invention. Et moi, j'ajouterais que la rareté, c'est peut-être la grand-mère de l'invention. Donc, clairement, en effet, on le voit d'ailleurs durant la crise Covid, où on a eu effectivement une pénurie d'appareils médicaux, de masques. Et on a vu justement cette ingéniosité collective qui s'est déployée à grande échelle très rapidement, où on a vu des solutions donc par la base, de façon bottom-up, comme on dit en anglais, à travers donc la France, mais aussi dans tous les pays, où quand les institutions effectivement échouent de fournir des solutions à grande échelle, mais finalement les gens arrivent à improviser. C'est vraiment ça l'état d'esprit ingénieux du GAD.
Et quels enseignements est-ce que vous tirez de cette pandémie mondiale ? Est-ce que tout a changé ou est-ce que rien n'a changé ?
Je dirais qu'il y a une chose qui a profondément changé, c'est effectivement que les gens ont compris que durant une période de crise, il faut faire preuve d'une grande résilience, mais une forme de résilience créative, parce que la résilience, ça se définit comme une forme de peut-être stoïcisme, voire d'inertie. Mais là, on a vu effectivement une forme de résilience créative où les gens ont été capables. Je vais donner un exemple rapidement. C'est l'exemple, par exemple, de Renato Favero en Italie, qui s'est associé avec un consultant en design pour concevoir un composant imprimé en 3D qui permet d'adapter sans effort le masque de plongée de Decathlon en ventilateur pour des patients de Covid et a sauvé effectivement des milliers de vies en Italie et à travers le monde. Pour moi, ça c'est une forme de résilience créative parce que les gens ordinaires ont démontré cette capacité incroyable de trouver des solutions ingénieuses dans des conditions difficiles avec très peu de moyens.
Vous êtes né en Inde, vous avez beaucoup étudié aussi la dynamique de développement du pays. Quels enseignements en avez-vous tiré ?
Alors tout d'abord, il faut savoir que la rareté, elle est omniprésente. Moi, j'ai grandi dans les années 70 à Pondichéry, donc une ancienne colonie française dans le sud de l'Inde, où on a eu effectivement une rareté d'eau due à la sécheresse. Donc l'eau était rationnée. Aujourd'hui, on parle beaucoup maintenant, on prévoit effectivement que l'eau va se tarir. C'est une ressource naturelle qui s'appauvrit. Et alors moi, j'ai connu ça déjà dans les années 70. Donc j'ai vécu effectivement ces conditions extrêmes de rareté de ressources naturelles. Et en même temps, même si les Indiens étaient pauvres, il y a une majorité qui demeure aujourd'hui pauvre, ce que j'ai noté en fait, grandissant avec des enfants pauvres, c'est qu'effectivement, ils faisaient preuve d'une incroyable agilité d'esprit et surtout d'ingéniosité. Et c'est ça qui m'a rendu optimiste, parce que j'avais vraiment compris qu'effectivement, sous contrainte, l'homme est capable de se transcender et trouver des solutions ingénieuses qui apportent de la valeur à la fois pour lui-même, mais aussi pour la communauté.
Et vous pouvez nous donner des exemples concrets ?
Oui, bien sûr. Alors, mon exemple favori en Inde, c'est ce potier qui a développé un réfrigérateur conçu entièrement en argile, qui préserve des fruits et légumes frais pendant plusieurs jours, qui ne consomme pas l'excité. Ou alors, si on va en Afrique, on voit par exemple un paradoxe, en ce sens que 80% des Africains n'ont pas de compte bancaire, mais 80% d'Africains ont un portable. Et donc, il y a une solution qui s'est mise en place au Kenya, qui s'appelle M-Pesa, qui permet aujourd'hui à la moitié de la population au Kenya d'envoyer et de recevoir de l'argent à partir de leur portable sans avoir un compte bancaire.
Alors, vous citez d'autres exemples, notamment Airbnb et BlaBlaCar.
En effet, c'est une grande fierté pour la France parce qu'il ne faut pas oublier que la France est une des grandes économies collaboratives, en ce sens que l'économie de partage, où vous et moi, on peut partager nos appartements ou nos voitures, que ce soit Airbnb ou BlaBlaCar, la France a été la pionnière de cette économie de partage entre particuliers. Ça permet effectivement de transitionner d'une économie où on possède un objet ou un produit à une économie de collaborative où effectivement on a accès à un produit ou de façon ponctuelle. C'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Ça s'inscrit effectivement dans la logique de la frugalité parce qu'effectivement, le partage permet effectivement de réduire l'acquisition de nouvelles ressources, de nouveaux objets, mais aussi permet ce que j'appelle la sociabilité parce qu'effectivement, ça permet de renforcer les liens sociaux entre individus.
Mais l'économie de partage n'a-t-elle pas des effets pervers? Je voudrais qu'on écoute ensemble ces réactions de Parisiens au sujet justement du développement ces dernières années de Airbnb.
Disons que tant que ça reste des particuliers qui louent leurs appartements, je comprends.
L'idée au départ elle est bien, mais aujourd'hui c'est du business.
Ça permet quand même de vivre ton voyage et ton quotidien un peu autrement quand tu viens en tant que touriste dans une ville.
Il y a des gens qui ont plein de logements à louer et qui ne font que du Airbnb.
C'est plus rentable de louer son appartement via Airbnb que de louer au mois.
Voilà, à propos recueillis par Le Parisien en 2020, Airbnb, modèle d'innovation frugale, on a vu tout de même avant la pandémie qu'il pouvait aussi aggraver la crise du logement dans les grandes villes. Alors est-ce que ce modèle de l'économie du partage n'a-t-il pas aussi des effets pervers ?
Absolument, il y a toujours des risques de dérive et en particulier ces exemples qu'on a entendus montrent aussi ce qui se passe quand l'ancien paradigme, c'est-à-dire le modèle capitaliste ou l'état d'esprit capitaliste quelque part, si vous voulez, s'accapare, vous voyez, d'un nouveau concept comme le partage. Et c'est là que je viens de publier d'ailleurs un article dans les Échos où je montre en fait comment on peut pratiquer cette économie de partage mais avec ce que j'appelle un cœur social et une âme écologique. Alors, deux exemples concrets. Un, c'est Venetis, qui est une association de 360 PME qui recrute des experts en contrat à durée indéterminée, CDI, et les partage sur une base de projet entre membres, remplaçant ainsi les emplois à temps partiel, qui sont très précaires, comme vous le savez, par des emplois à temps partagé, comme ils appellent, qui sont plus stables et mieux payés.
Il y a une condition que vous posez, et pas des moindres, pour que l'on puisse tirer tous les bénéfices de cette innovation frugale. C'est la conscience chez les individus de la raréfaction de ces ressources et une volonté réelle de les protéger. Est-ce que, selon vous, cette conscience existe quelque part dans le monde ?
Elle existe, en effet. On voit, par exemple, comment dans les pays nordiques, les investisseurs, par exemple, commencent à réduire les investissements dans des entreprises qui, par exemple, polluent ou, par exemple, sont dans le secteur de pétrochimie, par exemple. Donc, je commence avec les investisseurs parce que parmi les parties prenantes, les cyniques du moins, les pessimistes, déplorent le fait qu'effectivement, vous savez, les investisseurs ne sont pas encore vraiment à jour et ils ne sont pas vraiment complètement enthousiastes à propos de développement durable. Mais ce n'est pas vrai. Il faut aussi savoir qu'ici aux États-Unis, qui est quand même l'épicentre du capitalisme, on voit aussi cette tendance parce qu'effectivement, les jeunes issus des générations Y et aussi Z commencent à épargner. Donc les fonds de pension, presque 30% des cotisations de retraite, maintenant viennent justement des jeunes qui veulent s'assurer que justement les fonds de pension américains investissent justement dans des entreprises qui ont une raison d'être qui est centrée sur le développement durable. Donc je dirais que cette prise de conscience est non seulement là, mais je crois de plus en plus, c'est qu'en fait on a des millions, même des milliards de gens qui veulent s'assurer que le mode de consommation et le mode de vie soient alignés avec ces valeurs. Et c'est là qu'ils vont commencer à mettre la pression à la fois sur les marques et même, je dirais même, sur les investisseurs.
Ah, le salut viendra-t-il de la nouvelle génération ? Mais est-elle si vertueuse que ça, cette nouvelle génération X ou Y ? On peut aussi se poser la question.
Cette génération qu'on aurait pu croire dans l'imaginaire collectif étant futile, passant son temps le nez sur les écrans, en fait est extrêmement pragmatique et exigeante. Parmi les points majeurs qui ont été identifiés dans cette étude, c'est le côté « je veux acheter utile », le rapport qualité-prix, la disponibilité du produit. Quand j'ai fait mon choix, je le veux tout de suite. En croisant avec une autre étude, on se rend compte que les entreprises sont loin d'être prêtes pour répondre à ce côté utile et pragmatique de cette nouvelle génération.
C'était Patrick Gourdon, responsable client engagement d'IBM Europe, qui était interrogé à l'époque en 2017 sur BFM Business. Cette génération qui est habituée à l'immédiateté et qui veut au fond avoir tout à portée au moindre clic, est-elle réellement si porteuse du changement de paradigme que vous appelez de vos voeux?
Je crois, Sonia, pour une raison toute simple, parce que effectivement, cette génération, elle est impatiente, parce qu'effectivement, elle est habituée à ce qu'on appelle la gratification instantanée. Et quelque part, je me demande si c'est pas effectivement une vertu, en fait, parce qu'effectivement, ils vont aussi exiger le changement soit apporté de façon rapide. Vous voyez, donc c'est pas comme la génération X qui pouvait attendre peut-être toute une génération pour voir aboutir des changements. Donc c'est une génération qui va être très impatiente, qui sait effectivement utiliser les réseaux sociaux pour activer justement des réseaux pour amplifier leur voix. Et on voit par exemple le cas des étudiants de l'école polytechnique qui sont associés avec d'autres écoles pour créer le manifeste donc écologique, qui sont auto-organisés et qui ont effectivement créé un mouvement. Et ce qui est intéressant avec ce mouvement, et ça je crois qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que ces jeunes ne cherchent pas à punir les marques. Par exemple, ces étudiants qui ont signé ce manifeste écologique issu de l'école polytechnique, ils sont en train de faire un truc super, c'est-à-dire qu'ils sont en train de identifier quelles sont les lacunes qui existent dans les modèles économiques actuels et pouvoir comment combler ces lacunes. Donc c'est plutôt une forme de critique, je dirais, constructive et non pas punitive.
Pour terminer, Navier Radjou, la question rituelle de cette émission, quel est selon vous l'objet du futur ou l'objet qui manque au futur?
Ce qui manque à l'humanité aujourd'hui n'est pas un autre objet physique brillant et attractif, comme le prochain iPhone, mais plutôt, je dirais, un objet dans le sens de but ou objectif. Vous savez, les gens recherchent désespérément l'objet de leur vie en dehors d'eux-mêmes ou dans le futur, alors qu'il suffit d'aller chercher cette raison d'être, cet objet en soi-même, car cet objet existe ici et maintenant en vous.
Merci beaucoup, Navier Radjou, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Une société consciente, réinventer la consommation, le travail et nos modes de vie.
A vine grows in the jungle like a line flows on a page. A simplified correction caught in cage. A flower whispers on your breath, it likes your cosmic style. A satellite in bracelets just a while. We, us the pharaohs, live for our own ideals. Stained glass and tarot cards can tell us how you. Sunlight as my heart grows to the east. The garden loves an email, thankfully. 5 million silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the
Us, The Pharaohs, un titre de Maxwell Farrington et Le Super Omar, tiré de l'album Once, sorti en avril dernier.
Un monde nouveau. Sonia Quironi sur France Inter.
On continue d'écrire le monde nouveau ce soir sur France Inter avec Sonia Zanad. Bonsoir Sonia.
Bonsoir.
Vous êtes chef de rubrique culture pour le site The Conversation France. Et puis Armel Auger est avec nous également ce soir. Bonsoir Armel.
Bonjour.
Journaliste à Oui Demain. On commence avec vous Sonia, vous nous parlez ce soir des générations X, Y, Z.
C'est ça. Si l'on en croit la classification alphabétique des générations, vous et moi, Sonia, nous partageons un prénom et aussi un destin à cheval entre génération X, celle qu'on appelle génération sacrifiée, et génération Y, dite des millennials.
Et c'est ça. Je suis née en 1979.
Ouais, moi en 78.
Et voilà.
Nous sommes donc tout à la fois la génération Mitterrand, la génération qui n'a pas connu le monde sans sida, celle qui a vu tomber le mur de Berlin, au moins à la télé, et qui n'a pas toujours vécu avec un téléphone portable et une connexion Internet.
Voilà.
Même si ça, franchement, j'ai du mal à le croire. Ça, ce sont les faits historiques, objectivement partagés. Mais nous serions aussi, selon cette classification, nomades, cyniques et fans de Nirvana. La preuve que la théorie tient pas debout, c'est que j'ai jamais aimé Nirvana.
Ouais, jamais trop, moi non plus. Mais elle vient d'où, cette classification ?
Alors, plus sérieusement, cette classification alphabétique qu'on voit fleurir partout dans les médias depuis des années, elle nous vient, sans surprise, des États-Unis. Elle est issue d'un ouvrage de 91 qui s'appelle La théorie générationnelle et qui est signé William Strauss et Neil Ho. Strauss et Ho, c'était des consultants férus d'histoire et de sociologie. Et selon eux, chaque génération a une identité propre qui se détermine par rapport à celle qui l'a précédée et détermine à son tour celle qui la suit. Ils sont parvenus tous les deux à retracer l'histoire de l'humanité en remontant jusqu'au 15e siècle et en affirmant qu'une crise majeure se produisait toutes les 4 générations, environ tous les 80 ans. Cette théorie, elle a suscité beaucoup d'engouement par son audace, mais elle a aussi provoqué des critiques. Et le gros problème, c'est qu'elle manque de fondements scientifiques.
Et alors, sans tomber dans cet excès de généralisation, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette génération Z, celle donc des jeunes gens qui ont en gros entre 15 et 25 ans aujourd'hui ?
Cette génération Z, c'est indéniablement celle de l'hyperconnexion, avec son cortège de célébrités éphémères et d'addictions aux réseaux sociaux. Et paradoxalement, c'est aussi une génération très nostalgique de l'ère pré-numérique, celle qu'on a eu la chance de connaître, vous et moi. Alors, on voit que, par exemple, les cassettes audio reviennent en grâce, les vinyles aussi, ça fait plus longtemps, les appareils photo jetables connaissent un vrai succès auprès des ados, et les friperies ne désemplissent pas.
Et c'est aussi, malheureusement, une génération qui connaît beaucoup d'angoisse.
Oui, alors avec le Covid-19, évidemment, mais aussi le réchauffement climatique et l'éco-anxiété qui s'ensuit, et puis les événements terroristes qui ont pu se succéder ces dernières années. En réaction à ces angoisses, les jeunes gens d'aujourd'hui, en tout cas une partie d'entre eux, s'engagent, s'expriment plus librement et plus souvent. Et on compte parmi eux de fervents défenseurs de l'état d'esprit woke ou éveillé.
On entend beaucoup ce terme woke ces derniers mois en France. Il vient d'où ce terme ?
C'est un mot qui est apparu au début des années 2010 à la faveur du mouvement Black Lives Matter. Se dire woke, c'est exprimer en fait un souci accru de la justice sociale, qu'il s'agisse d'antiracisme ou de féminisme par exemple. Ce sont ces mêmes woke qui emploient l'expression « ok boomer » pour moquer la génération des baby-boomers nés après la Deuxième Guerre mondiale et qui auraient péché par égoïsme, dégradant la planète et ne se souciant pas assez d'égalité. Alors, peut-être que même les jeunes les plus éclairés, les woke, sont parfois tentés de céder aux sirènes de la généralisation, pour mieux asseoir l'identité de leur génération.
Mais merci Sonia. Et ce que je vous propose pour inventer ce monde nouveau, c'est de mettre un peu de désordre dans ces classifications. Allez, vive les jeunes boomers et les vieux woke. Armel Auger, journaliste à Oui Demain, qu'on soit boomer, qu'on soit jeune, qu'on soit woke, ça c'est sûr, on est tous dans le même bateau aujourd'hui. Le 29 juillet dernier, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources planétaires de l'année 2021.
Oui, c'est un rude constat. Alors, consommer moins pour sauvegarder notre planète, mais aussi vivre mieux avec moins, en symbiose la plus étroite possible avec la nature. Cette aspiration est heureusement de plus en plus partagée. Alors d'abord, il y a ceux pour lesquels la crise sanitaire a agi comme un révélateur et un déclencheur. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos concitoyens, 78% des Franciliens, rêvent de s'installer à la campagne pour, entre autres objectifs, vivre plus simplement.
Être plus qu'avoir, c'est le nouveau créneau de ceux qui veulent vivre en accord avec Dame Nature. Mais il y en a qui vont encore plus loin, Armel, en décidant de s'alléger de la dépendance aux technologies.
Parce que ces technologies, et on l'a vu avec la polémique autour du vaccin, sont issus d'un progrès scientifique pour lequel de plus en plus de gens éprouvent de la méfiance plus que de la fascination. Surtout, où mettre le curseur entre l'essentiel et le superflu? Oui. Selon l'enquête Il est temps, réalisée en mai dernier par Arte, 68% des jeunes Européens, très sensibilisés aux défis environnementaux, disent pouvoir se passer de faire les magasins, très bien. 78% affirment être heureux sans voiture, sans avion. Mais vivre sans Internet et sans smartphone, ça c'est une autre histoire.
Et Mark Boyle, lui, le fait.
Oui, cet Irlandais de 42 ans, ex-gérant d'un supermarché, connu pour être l'homme qui a vécu un an sans argent, il a fait un livre là-dessus, a décidé de vivre comme son arrière-grand-père. Sans smartphone, sans internet, mais aussi sans électricité, donc sans frigo, ni plaque chauffante, ni radiateur, sans eau courante. Une vie sans les machines et les technologies qui bousillent notre humanité, explique-t-il dans son nouveau livre qui s'appelle « Une année sauvage ». Alors pendant cette année sauvage, Mark Boyle a réappris à vivre en humain, dans l'ici et maintenant, en face à face avec une nature aussi généreuse que rude. Dans son tout petit village perdu d'Irlande du Nord, il a construit une maison en bois, il a fait pousser des légumes et des plantes médicinales, il a appris à faire du feu, à chasser. Il a, comme il dit, réappris l'essentiel, l'effort, la sueur, l'humilité, mais aussi l'étonnement, la confiance en lui, le partage, une certaine forme de paix intérieure. Le plus déstabilisant n'a pas été de s'éclairer à la bougie, de ne pas savoir seconde par seconde ce qui se passait dans le vaste monde ou de réduire sa liberté de mouvement à ses déplacements en vélo. Mais, il l'explique, c'est celui d'écrire à la main, avec la jubilation de retrouver le cheminement très particulier que fait la pensée lorsqu'elle prend le temps d'aller du cerveau à la main. Et aussi de mettre de côté son credo vegan, en pêchant et en chassant, parce qu'il en avait un peu ras-le-bol de manger uniquement des pommes de terre. Et si l'on en croit l'abondant courrier, envoyé par la poste bien sûr, qu'il reçoit, Mark Boyle fait nombre d'émules rêvant de ce retour aux sources. Et on peut se demander si l'homme postmoderne, en fin de compte, ne sera pas un roi nu.
Et en attendant de répondre à la question, on peut lire ce reportage, hein, quelques jours avec Mark Boyle, à découvrir dans le prochain numéro de la revue Oui Demain, apparaître en septembre. Merci à toutes les deux. Une voix douce et puissante, des mélodies caressantes et sucrées, un univers poétique et décalé, elle est l'une des révélations musicales de cette année. November Ultra est musicienne, chanteuse, songwriteuse, elle écrit des chansons, et productrice. Et elle fait tout ça comme une grande, dans sa chambre. Ça s'appelle de la bedroom pop et c'est un pur bijou. Ce soir, vous n'êtes pas dans votre chambre, mais bien dans le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Bonsoir November Ultra.
Bonsoir.
On va vous entendre chanter dans un instant en live, mais d'abord, vous revenez de la tournée des festivals, vous avez fait les Francofolies de La Rochelle, les Nuits de Fourvière à Lyon. Comment se sont passées ces retrouvailles avec le public?
Ben, c'était magique, c'était vraiment merveilleux. En plus, les Nuits de Fourvière, j'ai eu la chance de le faire en première partie de Pomme. Du coup, avec un public, je trouve un peu à son image, très bienveillant et très gentil. Et je pense, j'ai eu la chance aussi d'être public, et donc de voir Francis Cabrel, par exemple, qui était vraiment un de mes rêves, ou Feu Chatterton, et du coup de vivre, et le plaisir de retrouver la scène, mais aussi le plaisir de retrouver les concerts et la connexion dans la vraie vie avec les gens, quoi.
Feu Chatterton, parrain de cette émission Un Monde Nouveau sur France Inter. On va vous entendre chanter tout de suite. November Ultra, vous nous interprétez en live Soft and Tender. C'est doux, c'est tendre, c'est sur France Inter et c'est à vous.
You're the one thing that I need. I gotta see your face tomorrow when I'm waking. It takes a lot for me to say that I want you to stay with me. with me, with me. It's getting easier for me to say that I want you to stay with me.
Caresse pour nos oreilles, soft and tender de November Ultra en live du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Extrait du premier EP, on dit aussi un maxi en solo, Honey, Please Be Soft and Tender. L'album entier Bedroom Walls sortira, on l'espère, dans les mois qui viennent. On l'attend déjà avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup November Ultra, vous venez me rejoindre à la table ?
Oui.
C'était beau. Pourquoi Merci. Ce nom, November Ultra ?
Pour plusieurs raisons, parce que je suis née en novembre, donc je suis allée à la chose la plus simple.
Donc ça, c'est pour November.
C'est pour November, et je me souviens qu'enfin, en gros, quand j'ai eu mon groupe, j'avais besoin de dissocier un peu et d'avoir un nom qui, quand on m'appelait November, je savais que c'était quand même quelque chose qui était très lié à l'industrie musicale. Et au moment où en fait j'ai spité que je suis partie en solo, j'ai voulu un peu évoluer comme un petit Pokémon. Et en fait, c'est surtout aussi un gros clin d'œil à Nostalgia Ultra, qui est la mixtape de Frank Ocean. Que j'adore, et j'aime beaucoup l'idée que November et Nostalgia soient un peu en surimpression et que du coup l'un veuille dire un peu l'autre.
Frank Ocean, cet auteur, compositeur et interprète américain qui fait tout, comme vous. On va le voir, son premier EP Nostalgia Ultra est sorti en 2011 et il a été tout de suite propulsé sur la scène hip-hop américaine. On va écouter ce que ça donne. But can you taste, little taste, Novocaine, baby, baby. Novocaine de Frank Ocean. Alors comme lui, hein, je le disais, vous faites absolument tout vous-même. On appelle ça de la bedroom pop, de la pop de chambre. Alors vous composez, vous enregistrez, vous arrangez, vous produisez tout, toute seule dans votre chambre. Est-ce que c'est parce que vous voulez tout contrôler ?
Je pense qu'il y a de ça, et il y a aussi l'idée d'apprendre à pêcher et d'avoir des outils en face de soi et de vouloir savoir les utiliser. Alors c'est absolument le cas sur Soft and Tender, qu'effectivement j'ai fait à 100% toute seule. Par exemple Miel, j'ai été accompagnée d'autres personnes, mais le noyau était déjà dur et je savais déjà ce que je voulais dire. Et je pense que c'était important pour moi, voilà, de savoir utiliser les outils. En tant que musicienne, mais aussi en tant que femme dans les studios, de pouvoir être capable de dire et d'utiliser les bons mots aussi pour m'exprimer et du coup avoir un résultat final qui me ressemble et que j'aime énormément.
Vous êtes musicienne, vous jouez de la guitare, vous avez fait longtemps du piano au conservatoire, mais vous composez sur un ordinateur, c'est ça ?
Alors souvent, du coup, ça commence plus par quelque chose de très organique et effectivement, dans un deuxième temps, ça passe par l'ordinateur et donc ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur. Et là, ça me permet d'arranger et d'imaginer un morceau qui va être terminé, qui va être produit. Et du coup, ça m'offre, je trouve, une liberté d'impro, de composition, de... puis d'aller chercher aussi des sons un peu plus bizarres, je pense, et donc du coup d'avoir cette alliance entre quelque chose de très réel et de très classique et organique sur Soft and Tender, par exemple, qui s'explique par le guitare-voix, et après quelque chose d'un peu plus moderne et peut-être bizarre et qui ressemble plus à du glitch, comme les petites voix justement qu'il y a dans Soft and Tender. Et j'aime bien, en fait, c'est un peu le magicien d'Oz, on sait pas ce qui est vrai, ce qui l'est pas, et c'est, je trouve, ce mélange-là, moi, qui me rend très heureuse.
On va continuer à apprendre à vous découvrir November Ultra à travers vos références, vos influences. Frank Ocean, on en a parlé. Il y a aussi Amy Winehouse. Go Back to Black, la référence absolue.
Je pense Amy Winehouse l'arrange avec Jeff Buckley dans le panthéon des artistes qui ont été incroyablement importants pour moi. La musique qu'ils ont fait, mais je trouve la manière dont ils l'ont fait, c'était ces deux artistes qui pouvaient pas faire autrement et qui l'ont fait avec tellement de sincérité. Enfin, ils se sont brûlés clairement dedans, mais c'est encore des albums où je pense qu'on les écoute et qu'on les écoutera d'ici 100 ans, je pense que ça fera toujours le même effet. Ils ont réussi à cristalliser dans un CD, quoi, tellement d'émotions et tellement de blessures et tout ça. Et j'essaye d'être aussi alignée et aussi sincère quand j'écris, quand je compose et quand j'enregistre que ces deux artistes que j'aime énormément. Et voilà.
Et bien, Jeff Buckley, on l'écoute. Maybe there's a God above. But all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. De Jeff Buckley, reprise évidemment de Leonard Cohen. Et puis il y a aussi Christine and the Queen. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Christine and the Queen. Une artiste aussi complète.
Bah, c'est dans son nom, hein, The Queen, The Queens. Elle a le droit à toutes les couronnes. Moi, je trouve que quand elle est arrivée dans le paysage musical français, elle a révolutionné tout. Et je pense qu'aussi, elle a donné à beaucoup de personnes le droit d'aller faire quelque chose d'un peu plus étrange et d'aller s'amuser là-dedans et de montrer que ça pouvait devenir de la variété française et faire partie de la culture française musicale.
Et alors, plus étonnant, November Ultra, les comédies musicales.
Ah, c'est ma passion. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
My Favorite Things, extrait de La Mélodie du Bonheur, sorti en 1965, adapté de la comédie musicale créée à Broadway en 1959. On est loin de la génération Y, des trentenaires dont vous faites partie, November Ultra. Pourquoi La Mélodie du Bonheur?
J'ai grandi avec les comédies musicales. J'ai grandi avec mon grand-père espagnol qui s'appelle Papi Ramon et qui est un fan de musique et de films. Et je pense que les comédies musicales, ça allie toutes ses passions. Et en fait, j'étais très jeune. Il m'a mis La Mélodie du Bonheur qui dure quand même 3 heures et je lui ai tout de suite demandé de me la remettre. Et en fait, j'ai vraiment grandi avec ce truc-là d'après d'aller dans ma chambre et de rechanter ces chansons avec une couette autour de moi pour faire les robes. Enfin, je pense que beaucoup de mon amour pour les mélodies et la façon dont je compose est très très lié à mon amour pour les comédies musicales des années 60, qu'elles soient anglaises, françaises ou espagnoles.
Un titre repris aujourd'hui par la jeune génération, Ariana Grande, Seven Rings. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and my strings. Ça vous donne pas envie de la reprendre, vous aussi?
Je sais pas si je serai à la hauteur de cette chanson. Je pense qu'Ariana, en tout cas, a fait un très très beau travail de l'amener en 2020, en tout cas.
Pourquoi avoir choisi d'écrire en anglais, November Ultra?
Ma mère va entendre cette émission, elle va rouler des yeux. En gros, j'ai grandi dans une famille où on parlait beaucoup de langues. Ma mère est espagnole et mon père est portugais. Et donc, je suis née, je suis française. Et la seule langue que ma mère comprenait pas, en tout cas, c'était l'anglais à l'époque. Et j'étais très timide, je suis très timide. J'arrivais pas trop à chanter devant les gens, ni rien. Et forcément, on chante un peu nos émotions. C'est un peu un journal intime oral, je trouve, d'écrire. Et du coup, j'ai trouvé un peu cette parade-là de chanter en anglais pour pas que ma mère comprenne ce qui allait pas dans ma tête ou ce qui allait très bien aussi. Hein. Mes émotions, en tout cas, étaient cachées via l'anglais. Ce que je trouve un peu ironique parce que c'est une des langues finalement les plus comprises dans le monde.
C'est celle qui vous ouvre les portes du monde aujourd'hui. Ouais. Votre mère qui vous répétait souvent November Ultra, tu es fille d'ouvrier,
ouais.
Les enfants d'ouvriers, ça devient pas artiste.
Ouais, c'est quelque chose, c'est marrant, on en a reparlé il y a pas longtemps. Et c'est quelque chose qu'elle a beaucoup dit, et puis c'est quelque chose qui revient beaucoup maintenant quand elle voit que, entre guillemets, les gens écoutent ma musique et que j'arrive à faire des concerts, enfin que ça devient vraiment ma vie. C'est quelque chose toujours dans la phrase, elle dit, puis t'y arrivais par tes propres moyens parce qu'on était, voilà, on n'était pas artistes nous-mêmes et tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose avec lequel elle a grandi et qu'un peu la société lui a aussi mis sur les épaules de cette, entre guillemets, ce poids de dire qu'on est ouvrier et que du coup on peut pas être autre chose, quoi. Et je suis heureuse de finalement un peu casser ce truc là et d'en parler avec elle et de vraiment lui dire, mais en fait ma mère, c'est quand même quelqu'un qui a passé son bac français à 54 ans, quoi. Elle est retournée à l'université, elle l'a fait en cours du soir, donc c'est quelqu'un qui a eu ces peurs là et en même temps quelqu'un qui aussi a fait des choses immenses et merveilleuses, donc c'est un peu cette double énergie qu'elle a, ma mère.
On écoute un autre extrait. I don't wanna get buried, don't wanna have your baby, baby, you say that I will change my mind. Maybe I will down the line. This shit is getting scary. You're pressuring me like crazy, it's crazy. Don't wanna. Miel, dans cette chanson November Ultra, vous dites, je ne veux pas me marier, je ne veux pas porter ton bébé. En tant que femme trentenaire, aujourd'hui, en 2021, vous sentez toujours peser sur vous ce genre d'injonction sociale?
Au moment où je l'ai écrit totalement, j'allais avoir 30 ans une semaine après. Donc je me suis mise au piano et c'est vraiment les phrases qui sont sorties. Et je pense que du coup, sans le savoir, c'est ce que je ressentais beaucoup. Et ce qui est assez beau finalement, c'est qu'en sortant ce morceau, je reçois beaucoup, beaucoup de témoignages. Bah, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un message, un DM d'une fille qui me disait qu'elle avait rompu avec son fiancé parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes envies et que cette chanson mettait... les mots sur ce qu'elle avait ressenti et qu'elle n'était pas capable de dire. Et voilà, on est tous chacun sur notre propre tempo et c'est plus ça que je dis dans la chanson, en fait. Peut-être que je voudrais un enfant à un moment ou pas, en fait, et c'est mon choix.
C'est mon choix.
Voilà.
Un exemple de conviction qui a changé le réel. November Ultra, à l'occasion des 40 ans de la loi Langue sur le prix du livre, on vous a demandé d'en choisir un. Quel livre avez-vous choisi pour nous ce soir?
J'ai choisi un livre merveilleux et très court, donc tout le monde va aller le lire.
On peut le lire sur la plage.
Voilà, qui s'appelle Connexion, je crois en français, c'est On Connection en anglais, je suis désolée, j'ai un peu fait ma meuf, mais de Kate Tempest. Parce que c'est un livre incroyable sur justement donc la connexion, mais la connexion à travers la créativité, et qui a été écrit en pleine pandémie, donc en 2020. C'est Kate Tempest, artiste non-binaire de spoken word, donc quelqu'un qui en plus écrit très 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 bien et qui explique d'une façon que j'avais jamais vraiment lu avant et en tout cas pas compris moi-même comme ça, l'importance de la connexion et du live, par exemple, que les concerts filmés, c'est pas la même chose que les concerts en live, et ça parle de création, quoi, beaucoup du fait de créer, c'est échouer parce qu'une idée est parfaite et qu'au moment où on la sort, de toute façon il y a quelque chose qui se perd, et du coup je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant quand on lit ce livre et une volonté très forte d'en parler aux autres. C'est un livre que j'ai beaucoup offert et avec, j'en ai parlé avec tous mes amis et tous mes amis le lisent et l'offrent à leur tour. Et je trouve que presque la connexion ultime, elle est là-dedans. C'est le cadeau que Yael nous a fait avec ce merveilleux livre.
On parle de connexion et de création ce soir dans Un Monde Nouveau sur France Inter. Merci beaucoup. November Ultra, je rappelle le titre de votre première EP, de votre premier maxi. Please Be Soft and Tender et la sortie de l'album complet Bedroom Walls qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Ah, ça sera peut-être pour la fin de l'année. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Un Monde Nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et préparation de l'émission, sans oublier Lily Cornillac et Anaïs Dinarc à la technique et à la prise de son ce soir, Mathias Alléon et Tiffany Battistel. Un Monde Nouveau, c'est fini pour ce soir. Après le journal, vous retrouvez Le Téléphone Sonne avec Marion Lourd.